Fermez les yeux et rêvez. Rêvez à l'enfant que vous avez été. Il est encore là, quelque part. Il affleure chaque fois que l'on vous rejette, que le monde extérieur vous écrase, lorsque vous êtes impuissant et que la seule chose que vous voudriez faire, c'est vous blottir dans les bras de quelqu'un. Touchez son souvenir, arrachez votre masque d'adulte et trouvez la porte qui mène par-delà ce monde, vers les limbes, vers les terres humides, où les enfants qui s'égarent finissent invariablement par échouer. Arpentez à nouveau la ville, copie blafarde de notre monde, vaste terrain de chasse où, sous une pluie continuelle, les sirènes de l'averse déploient une faim que rien ne pourra jamais rassasier. Bienvenue à Libreté. Jidérienne, Jidérien, bonjour et bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Retour d'XP. Retour d'XP consacré, comme vous avez pu le comprendre, au jeu de rôle Libreté de Vivien Féasson. Alors Libreté, c'est quoi? C'est un spin-off d'un premier jeu qu'avait pu éditer Vivien, qui s'appelait Perdu sous la pluie, où nous jouions des enfants perdus sous la pluie, et qui disparaissaient les uns après les autres du fait d'être attirés, dévorés par des sirènes. Ici, nous rejouons des enfants qui sont perdus également sous la pluie, si ce n'est qu'à la différence de Perdus sous la pluie, nous allons jouer une communauté d'enfants qui se sera réfugiée dans une forteresse appelée Libreté. Vous l'aurez donc compris, on y joue des enfants, âgés entre 6 et 15 ans, principalement plutôt des enfants entre 10 et 15 ans, mais certains archétypes, tels que le bout de chou, permettent largement de pouvoir incarner des enfants plus jeunes. Il n'y a pas de Libreté déjà proposée dans le livre de base. Ou pour être plus précis, l'auteur nous guide sur la manière de créer notre propre Libreté, ce qui signifie donc que chaque table de jeu aura sa propre communauté, sa propre forteresse, avec ses forces, ses faiblesses. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons toute une série de questions auxquelles il faut répondre de manière collaborative et qui peuvent permettre ainsi aux participants et participantes de donner chacun leur avis et de conduire à un univers qui sera partagé par tout le monde. La particularité de cet univers, c'est la présence des sirènes. Ces sirènes sont des créatures qui naissent à partir de l'eau. De ce fait, vous imaginez bien que la forteresse étant sous la pluie de manière continuelle, et l'univers également, ça va devenir très compliqué pour les enfants qui vont vivre là-bas. Alors bien sûr, il y a quelque chose de magique autour de Libreté, puisque les enfants seront protégés en étant dans Libreté. Et ça sera à vous de définir qu'est-ce qui vous protège, et pourquoi les sirènes ne pénètrent pas dans Libreté. Bien évidemment, ça signifie que c'est un jeu de survie, un jeu d'horreur, un jeu d'épouvante, un jeu psychologique. Pourquoi psychologique? Parce qu'en fait, vous allez jouer des enfants sous la forme d'archétypes. Tiens, ça rappelle quelque chose ça. Effectivement, le système de résolution de Libreté est basé de manière un petit peu détournée sur celui d'Apocalypse World, à savoir que chaque participant va avoir un archétype, qu'un archétype ne pourra pas être présent en double à la table, et que chaque archétype à ses propres capacités. C'est assez marrant de voir les archétypes que Vivien a pu proposer, puisque cela va du chef de bande à la victime, mais également au petit bout de chou, à la princesse, à la maman, etc., etc. Alors, ne faites pas attention au fait que ces archétypes soient sexués, puisqu'en fait, vous avez toute la possibilité de décider que la maman est plutôt un personnage de sexe masculin, et aura un rôle donc de père, tout comme la princesse n'est pas forcément une petite fille avec une robe rose, mais peut être tout à fait un petit garçon. Alors je disais que Libreté était un hack d'Apocalypse World. C'est vrai, mais qu'en partie. Alors bien sûr, il y a des archétypes. Bien sûr, il y a des moves qui sont spécifiques aux archétypes. Bien sûr, il y a des moves de base qui sont partagés par toute la table. Bien sûr, il y a également des seuils de difficulté qui permettent de savoir si l'action est réussie, pleinement réussi, moyennement réussi ou échoué. Mais la petite nouveauté qu'apporte Libreté vient de deux faits en fait. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de caractéristiques. Ici, il y a un système dit de bile noire que vous allez devoir miser lors de la réalisation de vos actions. On va y revenir après. Et la deuxième chose, c'est que dans Apocalypse World, lorsque l'on réussissait parfaitement avec un 10+, c'était une réussite parfaite. Ici, du fait d'incarner des personnages qui sont enfantins, le fait de réussir parfaitement va être contraint à un seuil qui sera constitué du chiffre 8, 9 et 10. Ce qui signifie que si vous faites 10+, ben vous allez devoir réussir, mais de manière excessive, parce que vous aurez mis trop d'engagement dans votre action et que vous ne maîtrisez pas encore vos gestes, vos paroles. Et donc, une réussite excessive, ben finalement, va rendre hyper intéressant le jeu. Et, quelque part, là où on cherche d'habitude à avoir le chiffre maximum au niveau de son résultat de G2D, ben ici, il va falloir quand même se dire, si je réussis de manière excessive, ben je vais pouvoir blesser l'autre, alors que je n'en ai pas envie. Ou je vais pouvoir lui prendre quelque chose, alors qu'en fait, c'était pas du tout l'idée. Je trouve ça plutôt très malin, puisque lorsque l'on incarne des enfants, quand on est un adulte, c'est assez compliqué. Et par ce fait, on peut en fait se retrouver avec des situations où, réussissant de manière excessive, ben effectivement, l'enfant aura poussé trop fort son ami et ce dernier se sera blessé, ou bien on aura eu des paroles un petit peu trop dures qui auront humilié l'autre, là où en fait le but initial n'était pas ça. Et quelque part, ça permet aux joueuses d'accepter beaucoup plus facilement soit l'échec du fait d'être un enfant, puisque je vous ai dit que pour réussir, il fallait faire au moins 8+, donc vous imaginez que le niveau de difficulté est assez élevé finalement. Et d'un autre côté, lorsque vous réussissez de manière excessive, ben ça va générer de la narration, parce que vous aurez eu un comportement qui sera enfantin. Je vous disais que la deuxième nouveauté par rapport à Apocalypse World, c'était les jetons de bile noire. Alors qu'est-ce que la bile noire ? Ben en fait, ce sont des jetons qui représentent tout ce qu'il y a de négatif en vous. Votre colère, votre haine, votre tristesse, votre peur. Et pour ne pas avoir à décider à la place du joueur qui incarne le personnage, eh bien seul ce dernier peut décider de prendre de la bile noire selon les situations. Le MJ, car c'est un jeu AMJ, n'a pas le rôle ni le pouvoir de vous imposer de prendre de la bile noire en fonction de l'action que vous aurez réalisée, en fonction de la situation que vous aurez vécue, ou même la situation à laquelle vous aurez assisté. C'est seulement au bon vouloir du joueur et de la joueuse qu'il décidera de prendre ou pas de la bile noire. Alors quel est son intérêt de prendre de la bile noire, vous me direz ? Ben, comme je vous ai dit, tous les personnages partent d'un même pied d'égalité, à savoir qu'ils ont tous les mêmes caractéristiques, puisqu'en fait, elles ne sont pas définies. Et pour réussir vos actions, il faudra lancer 2d6 plus de la bile noire. Donc l'intérêt, ben, ça va vous permettre notamment de parvenir à réussir plus facilement vos actions, mais également de pouvoir incarner au mieux votre personnage. Si vous deviez accumuler cette bile noire, il y aurait un système qui s'appelle de craquage, où votre personnage ne pourra pas résister aux humeurs qui sont à l'intérieur de lui. Et dépassé par ses sentiments, le MJ pourra imposer un jet de craquage au personnage et lui imposer ainsi une situation qui sera beaucoup plus délicate et beaucoup plus difficile à appréhender, puisque là, ce n'est pas le joueur qui choisira la situation et les conséquences, mais le MJ lui proposera. Le joueur aura la possibilité de refuser et de tenter de résister au fait de craquer au travers d'un jet. Et bien sûr, si ce jet est raté, il devra appliquer la proposition du MJ. Ce qui est particulièrement intéressant également sur la bile noire, c'est que sur la fiche des archétypes, vous avez des guides pour vous dire, selon l'archétype que vous allez interpréter, voilà la manière dont, normalement, vous devriez prendre de la bile noire. Bien sûr, ce sont des guides, et rien n'est imposé, mais ça permet de teinter et d'interpréter son personnage d'une certaine manière. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de le faire, mais franchement, quand on joue le chef, quand on joue le solitaire, quand on joue le petit bout, ben ça permet d'avoir une idée de à quoi ressemble l'archétype. Alors le livre de Libreté vous permet d'une part donc de créer votre forteresse qui sera votre propre forteresse et elle sera unique. D'autre part, vous offre tous les moves de base avec tous les moves avancés de tous les archétypes de personnages, mais également vous explique ce que sont les sirènes. Alors ce sont des êtres qui sont polymorphes, qui naissent à partir de l'eau et qui aiment se repaître de chair humaine. Et bien sûr, de chair d'enfant, puisque dans Libreté, il n'y a pas d'adulte. Alors, ce n'est pas un jeu à secret, bien que on puisse se poser la question de qui sont ces sirènes, comment on en devient une, que deviennent les enfants une fois qu'ils ont atteint un certain âge, compris entre 15 ans et 16 ans, puisque effectivement, ces enfants disparaissent corps et âme. Et pourtant, malgré cela, il n'y a aucune obligation et ce n'est pas un jeu d'enquête où il faudrait savoir et définir qui sont ces sirènes, comment fait-on pour ne pas disparaître alors que l'on a 15 ans, etc., etc. Le jeu vous propose des pistes, mais vous dit également clairement que c'est à vous de définir ce qu'il se passe lorsque votre personnage atteindra 15 ans. Où est-ce qu'il va? Que devient-il? Mais également, que sont les sirènes? Alors, pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que Libreté a été mon jeu coup de cœur de l'année dernière. Et je reconnais avoir maintenant un certain nombre de parties à mon compteur. Par contre, je me posais quelques questions, parce que malgré le fait d'avoir apprécié énormément sa lecture, d'avoir eu une partie d'anthologie à RPGers 2017, je voulais savoir, d'une part, si en changeant les personnes à la table, est-ce que le résultat et l'intensité que j'avais pu vivre allaient être au rendez-vous? Est-ce que le fait de jouer des enfants alors qu'on est avec des adultes autour de la table, ça pose un problème ou pas? Je m'interrogeais aussi sur le système de billes noires et savoir est-ce que les joueurs et joueuses allaient prendre en main ce système, là où, comme je vous l'ai dit, ils ne sont pas obligés de les utiliser, ils peuvent chercher à optimiser le nombre de billes noires pour ne pas craquer par exemple, et donc ça m'intéressait vraiment de voir si, en testant ça à plusieurs tables, en testant ça durant notre débrief, et notre partie de débrief, j'allais avoir finalement des personnes qui étaient dans une optique d'optimisation, ou si ces personnes allaient se laisser porter par la narration, par le fait de ressentir ce que ressentait le personnage, et avoir en fait des situations où les personnages se laisseraient submerger par leurs émotions. Alors comme il me l'avait été demandé, maintenant je vais vous parler un petit peu de notre fiction. Ici, pas vraiment de spoil, puisque comme je vous l'ai dit, Libreté n'est pas un jeu à secret, ou pas vraiment. Et donc, pour que vous sachiez à peu près qui jouait quoi et la fiction que l'on a pu jouer, je vais vous la débriefer rapidement. Nous avions trois joueuses, à savoir Marion, qui incarnait un bizarre, qui s'appelait Luciole. Nous avions Lise, qui incarnait une brute, qui s'appelait Negan. Et nous avions Paul, qui jouait le chef de bande, mais également fondateur de Libreté, ce qui était pour moi une nouveauté, qui se nommait Manu. Alors, leur Libreté était assez différente finalement de toutes les Libretés auxquelles j'avais pu participer, puisque pour une fois, le chef de bande n'était pas que chef de bande, mais également fondateur de Libreté. Et de ce fait, ils ont décidé de se retrouver à la tête de Libreté. Ils ont mis en place un système de caste, avec comme protecteur face aux sirènes un chat, s'appelant Brodenois, qui avait le pouvoir apparemment particulier d'empêcher les sirènes de rentrer dans la citadelle. Parmi les différentes castes, nous avions donc celui du chef de bande, qui s'appelait la majorité. Nous avions également les broudistes, qui étaient la secte religieuse dédiée à Broudenois. Nous avions la minorité, qui était des personnages qui partaient en expédition à l'extérieur de Libreté pour ramener des vivres. Nous avions les silencieux, qui représentaient la majorité silencieuse, puisque notamment, il leur était interdit de parler. Nous avions également les anoraks, qui était un groupe qui défendait la citadelle de Libreté, et enfin, les rats, qui étaient des personnes qui avaient été punies parce qu'ils n'avaient pas servi la communauté et à qui on affectait les basses tâches. Il y avait un semblant de démocratie, ou en tout cas, le chef de la communauté, Manu, avait un conseil représenté par l'ensemble des chefs de bande et auquel on pouvait lui faire ses suggestions et remonter des informations. Ah, par contre, la démocratie s'arrêtait là, puisqu'en fait, on était plus sur un mode royauté, puisque c'était lui qui décidait avec sa bande. Une suggestion lui a été faite, à savoir de changer le mode de caste, ou plutôt que chaque personne puisse, non pas de manière définie par le chef de bande et le chef de Liberté, d'être affecté à telle et telle bande lorsqu'ils arrivent à Liberté, mais d'avoir un genre de stage en immersion dans chaque bande afin de savoir ce qu'ils vivent vraiment. Le personnage de Luciole, le bizarre, a une vision montrant que Manu allait décédé au cours d'une expédition avec les rats. Et, de ce fait, Manu, écoutant la prédiction de Luciole, a décidé de donner des petits papiers magouilles à chacun des PNJ, mais également PJ, sur ce qu'il faudrait faire lorsqu'il disparaîtrait. Je reconnais que les enfants, ayant reçu ces petits mots, les ont pris au pied de la lettre et n'ont absolument pas recontextualisé l'ordre ou le conseil de Manu, à savoir qu'à partir du moment où il disparaissait, il devait appliquer ce genre de d'ordre. De ce fait, on s'est retrouvé avec le leader des rats qui a dû assassiner Broudenois. On a eu le chef des broudistes qui a pu s'apercevoir que le chef des rats avait tué son dieu et qui donc s'est vengé dessus. Et finalement, tous les personnages ont commencé à avoir de la rancœur, à se taper dessus et à être menacés. D'autant plus que Manu avait complètement pété un plomb, puisque il a décidé de tuer le chef de la minorité qui était probablement celui qui aurait pu le remplacer à partir du moment où il disparaissait. Comme j'ai pu vous le dire, Broudenois étant le protecteur de Liberté, les sirènes sont rentrées à l'intérieur de la cité, ont tué tous les personnages, et le personnage de Manu, lui, a décidé de s'enfuir dans la terre d'exil. Alors cette fiction était assez marrante pour plein de choses, notamment par le système de caste qu'ils avaient mis en place, mais également par le fait d'être au sommet de Liberté, chose que je n'avais jamais vécue, mais enfin, par le fait que Liberté est tombée, puisque la protection magique, si j'ose dire, a été désactivée au travers de l'assassinat du chat qui les protégeait. Et donc, cette partie a été vraiment intéressante parce que ça a été un condensé de ce qu'on peut faire sur Liberté. Et ça, on va vous en parler plus en compagnie de Marion, de Lise et de Paul. À de suite! Donc, on vient de terminer la partie de Liberté en compagnie de Marion. Bonjour Marion.
Salut, salut.
En compagnie de Paul.
Salut, salut.
Et en compagnie de Lise.
Bonjour, bonjour.
Alors, première question sur ça, comment vous vous sentez après cette partie?
Moi, je suis
Marion.
Moi, je suis en PLS mental.
Tu peux nous sortir plus, s'il te plaît?
J'ai vécu quand même des heures éprouvantes. Je saurais pas dire combien de temps on a joué, mais vraiment, j'ai eu l'impression que on a essoré mes sentiments et vraiment, je me sens vraiment mal, un peu, quand même. J'aimerais bien en parler.
Alors, on va le faire. On a joué à peu près 3 heures.
Ah oui, j'ai vécu température ressentie 7 heures, tu vois.
Pour Paul.
Je me sens très confus et très embrouillé. Et maintenant, je comprends, après cette partie, que le moindre mot a son importance. Je me sens assez responsable.
Et pour toi, Lise?
J'aime bien ces genres d'histoires un peu glauques, donc personnellement, moi j'aime beaucoup, j'aurais même envie de refaire une deuxième partie, donc voilà.
Est-ce que, en dehors de vos sentiments forts, en tout cas sur l'intensité, est-ce que la partie vous a plu, Marion?
Moi ça m'a carrément plu, je pense que c'est mon jeu préféré de ouf, quoi, mais vraiment.
Pourquoi?
La partie m'a énormément plu.
On reviendra dessus alors. Élise, on peut supposer que
oui. Franchement, voilà, j'aime beaucoup. En plus, déjà, c'est un jeu très intéressant à l'origine. J'avais déjà fait une fois et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et là, cette partie-là m'a particulièrement bien plu.
Alors pour que les auditeurs vous connaissent mieux, entre guillemets, quel type de jeu vous appréciez généralement ?
Pour ma part, Paul, moi je suis très friand des jeux de rôle contemporains fantastiques ou d'art fantastique, et des jeux d'horreur en général. Donc Libreté est un bon compromis.
Effectivement. Pour toi, Lise ?
J'aime les jeux de rôle en général, je trouve ça toujours très intéressant. Par contre, en jeu ou en univers, il est vrai que bon, j'aime beaucoup tout ce qui a un rapport avec la psychologie et l'horreur. Donc, si on parle pas de jeux de rôle en même, je suis beaucoup plus intéressée par les jeux de vidéo d'horreur, style, j'ai le droit de dire un nom, style Silent Hill. Sinon, en film, j'aime beaucoup les films d'horreur. Ça dépend, j'aime pas trop quand c'est gore. Plus dans la psychologie, plus dans l'horreur même de l'inquiétude, mais voilà. Donc ce jeu de rôle là en général me plaît beaucoup parce que c'est complètement ça. C'est pas obligé d'être gore, mais c'est dans une ambiance très très, très intrigante et très lourde.
Comme l'échelle de Jacob.
Un peu comme l'échelle de Jacob, voilà.
Pour toi, Marion.
Ben moi, j'ai pas de registre particulier, d'univers particulier, mais j'attends qu'on me fasse vivre des émotions très fortes. Et ben là, ça a été clairement le cas avec Libreté. Après, j'ai pas mal d'expérience en tant que maîtresse de jeu sur des jeux comme Little Fears qui mettent pareillement en scène des enfants dans un cadre horrifique. Donc ça reste bien dans cette lignée-là que j'exerce depuis quelques années, quoi.
Alors, si vous deviez recommander ce jeu, selon vous, à quel type de joueurs et joueuses ça s'adresse ?
Lise. Donc, principalement à des personnes qui sont déjà adultes, hein, donc pas des enfants. Même si on joue des enfants, ça ne peut pas correspondre à des enfants. Et des personnes qui savent vraiment faire la différence entre la réalité et l'imagination, parce que il y a des scènes qui peuvent être très très dures, qui peuvent justement te bousculer intérieurement, et il faut pas être fait. Enfin, faut être un peu fort psychologiquement sur ces cas-là.
Marion.
À quel type de joueur, moi je dirais, en plus de ce qu'a dit Lise, que c'est un jeu quand même où on donne des éléments pour se faire mal. Et du coup, je dirais que déjà faut se mettre avec des joueurs avec qui on est en confiance et qui sont dans un cadre vraiment bienveillant pour s'assurer que ça parte pas en live et que, comme elle dit, c'est éprouvant mentalement, donc faut prendre soin les uns des autres. Après, en termes de générer de l'horreur, c'est vraiment quelque chose de très puissant parce que vraiment tous les éléments sont prêts. C'est un genre de toile en fait dans laquelle on va se retrouver emprisonné, mais avec plaisir en fait. Et il faut accepter la souffrance qui va s'en dégager, quoi.
Je suis bien d'accord avec toi dans l'aspect de la bienveillance et d'être avec un groupe de confiance, même si on ne se connaît pas tous très bien en tant que personne, mais on voyait à peu près qui on était. Donc là, je savais qu'avec cette partie de Libreté, on serait dans un cadre bienveillant et sécurisé. Et de plus, Jérôme aurait été là pour nous protéger de la méchante Marion, de la méchante Lise ou du méchant Paul. Et la majorité était avec nous.
Alors, ce qu'on a pu dire dès le départ, c'est que le jeu était quand même très intense. Est-ce que vous avez l'impression que cette intensité dépend des personnes qui sont à la table, ou est-ce qu'il y a des éléments dans le jeu qui conduisent forcément à obtenir cette intensité ? Lise ?
Alors, de ma part, je pense qu'il pourra peut-être un peu avoir des deux, mais surtout, ça dépend du joueur. On peut avoir une chose qui peut nous être donnée dans le jeu, mais si le joueur l'utilise mal ou en prend pas d'importance, cette chose-là ne va pas donner le même impact que si le joueur en fait quelque chose. Donc c'est principalement avec les ressentis des joueurs que le jeu est aussi important.
Pour ma part, il y a autant l'importance du joueur dans Libreté pour cette intensité que tu annonces, mais aussi d'une certaine manière, comme l'a dit Marion tout à l'heure, la volonté de se faire mal. Avec le système de binoir, je pense qu'on en rediscutera après, on choisit de se faire mal en disant là je sais que mon personnage est stressé, est en colère, est angoissé. On récupère des billes noires jusqu'à que on arrive à un stade critique que d'une certaine manière, on a cherché. Donc, le joueur et les mécaniques sont aussi importantes pour la volonté d'intensité de souffrance. c'est bizarre à dire, mais oui, c'est ça. Marion ?
Je rejoins pas mal l'avis de Paul. Pour moi, ce serait 50-50. En sachant que je pense que, comme lui, il y a déjà pas mal d'éléments dans le game design qui sont là pour créer de l'intensité. Donc, il a parlé de la bille noire, mais aussi le fait que, par exemple, il me semble que pendant la partie, tu m'as dit que ça faisait partie du jeu, quand on est dans une situation d'être incité à faire quelque chose qui transgresse notre morale ou nos limites mentales, ça fait partie du jeu, quoi. C'est vraiment présent. On est vraiment dans une tentation de se faire mal mentalement, mais aussi de faire mal aux autres, en fait. Mmh. Et c'est ça qui est vraiment éprouvant, c'est parce qu'on est à la fois... Ça va faire un peu gicler intellectuel, mais il y a Baudelaire qui avait écrit dans je sais plus quel poème je suis la plaie et le couteau, la victime et le bourreau, et je trouve que ça se retransmet bien dans ce jeu, parce que on est à la fois les personnes qui se font mal et les personnes qui souffrent, mais en même temps c'est un peu bizarre mais dire ça, mais ouais, on aime bien se faire mal, quoi.
Alors comment parler de PLS mental d'intensité, et que même si j'ai déjà débriefé légèrement la partie pour les auditeurs, qu'est-ce qui justement vous a marqué, ou qu'est-ce qui fait que vous avez retenu cette intensité au cours de cette partie notamment?
Des situations qui sont plutôt crues, directes, sans préliminaire MJ va pas dire attention, alors à ce moment-là, vous allez voir quelque chose qui va vous choquer, que le personnage va vous choquer. C'est tout de suite la scène, hop, ça se passe comme ça, et c'est pas, on réfléchit pas plus que ça sur comment apporter la chose. Il peut y avoir des scènes horrifiques, il peut y avoir des scènes hard, et c'est présenté comme c'est. Donc, justement, dans ce côté-là, justement, c'est que, on n'a pas de petites caresses dans le dos qui te dit attention ma petite, mon petit, à ce moment-là il va falloir que tu fermes les yeux. Non, voilà, c'est ça aussi qui peut être assez marquant dans le jeu, quoi. C'est le côté réaliste et direct de situation.
Pour toi, Marion?
Je dirais déjà il y a le caractère tragique du jeu, parce que dans Libreté il y a pas moyen que ça aille mieux, en fait. Ça va forcément aller de pire en pire, et on sait que, enfin, on le sent, on est dans un contexte pluvieux qui est très morbide, en fait, et enfin, je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, bon, c'est très connoté, ne serait-ce que dans, par exemple, dans la culture japonaise, l'eau, ça renvoie profondément à quelque chose de morbide. Et aussi, le fait qu'on soit souvent condamné à cette, à Libreté, la petite cité dans laquelle on est, qui forme un peu un huis clos, qui est un peu notre berceau, parce qu'on est des jeunes enfants, mais aussi c'est notre tombeau, en fait, finalement. On est condamné, et elle aussi, et ça, c'est super flippant. Et aussi, à chaque fois qu'on pioche ces petites billes noires, en fait, qui viennent concrétiser le fait qu'on est dans la merde, et qu'on va être de plus en plus en PLS mental, j'ai l'impression qu'on se retrouve enseveli en même temps que nos personnages sous ces émotions négatives, en fait, et dont on cherche tout le temps à s'en débarrasser, mais en fait on se retrouve toujours avec elles reviennent toujours, on peut pas fuir. C'est vraiment tragique.
Il a un côté un peu comme si on était coincé dans les limbes en tant que gamin, on n'a pas eu la chance de vivre une vie d'adulte, donc on est mort et qu'on est cassé, justement. qu'on est coincé dans un endroit où, comme tu dis, ça ira de plus en plus de façon terrible, et puis surtout qu'on peut pas sortir, quoi. Ouais. Il y a vraiment ce côté, on peut pas sortir, on fait ce qu'on a avec, mais on sait que ça sera de plus en plus pire. Et tout ce qu'on a à faire, c'est retarder ce moment fatidique que l'on sait qu'on va avoir, mais qu'on fasse en sorte de vivre dans cet endroit-là. Voilà.
Et grave, t'as dit le mot limbe. Et moi, je sais pas si vous avez joué à ce jeu vidéo, mais moi, ça me fait penser vachement à Limbo, qui est un jeu de plateforme.
Oui, oui.
Alors pareil, où on a en fond ce côté un peu pluvieux, brouillard, et aussi on joue des gosses, pareil, qui sont dans des espèces de limbes, et on ne comprend pas vraiment la logique de l'univers. Et là, ivreté, c'est pareil, on sait pas trop ce qu'on fout là, on sait pas pourquoi la vie, on sait pas pourquoi la mort, mais en tout cas on va prendre cher et c'est très métaphorique aussi, on interprète comme on veut le truc, mais en tout cas voilà quoi.
Là tu m'as donné une idée, en fait j'aurais pas dit limbo, mais j'aurais plutôt dit don't starve, je ne sais pas si vous connaissez.
Ouais, grave.
L'enfant est comme dans le jeu livré à lui-même dans un monde qui ne veut que sa mort. Il n'y a pas l'aspect pluie, mais il y a cet aspect de névrose qui plus l'enfant va être névrosé ou nécrosé à ce niveau-là, parce que avec la pourriture on a un aspect concret dans le jeu, plus il va rentrer dans une gratuité de violence immédiate. C'est comme tu l'as dit, Lise, c'est pas le jeu, on dit attention, je vais te faire un câlin. là, c'est directement, on va lui planter le couteau dans la main, on va l'exploser la tête contre un mur, des réactions sans chichi, complètement désinhibées, parce que d'un côté, l'enfant n'a plus l'encadrement de la morale. Il y a plus justement ce cadre, et ça peut être, après je n'ai pas le droit de toucher au livre, mais peut-être que ce sera une réponse qui sera apportée plus tard, de pourquoi justement il n'y a plus les adultes et pourquoi il y a justement cette volonté qu'on se fasse aussi mal gratuitement. Parce que je pense que vu les moves de liberté, tout conduit à la violence, même involontaire.
Justement, en parlant de cette violence, il y a aussi cette sensation de destruction et d'autodestruction. Là, justement, libreté est soi-disant un endroit où qui est protégé, qui fait pour protéger les survivants. Et justement, tout porte à faire qu'on veut soi-disant garder cette protection, mais tout porte à faire de la détruire en fin de compte et de pas se retrouver encore devant cette fameuse danger. On sait qu'à la fin, ça va nous tomber sur le coin de la tête. Mais que malheureusement, bah, on essaie de faire tout pour pas, mais que ça nous arrive, quoi. Parce qu'en fait, compte, on le fait.
Marion.
Mais c'est vrai que on parle beaucoup dans l'univers du danger des sirènes et tout ça, mais on voit pas, si on regarde bien l'affiche personnage ou quoi, on voit pas cette présence des sirènes, parce que la vraie menace, en fait, elle vient vraiment de nous et de notre noir de la notion de pourriture et du fait qu'on s'affranchisse des barrières morales pour être dans la violence pure, en fait.
C'est génial, parce que ça faisait partie des questions que j'allais poser, justement. Pour vous, c'est quoi la vraie adversité du jeu? Parce qu'effectivement, c'est vendu comme étant le danger, c'est dehors, c'est les sirènes, etc. Mais est-ce que votre sentiment, c'est effectivement, c'est que cette vraie adversité, c'est les sirènes, ou est-ce qu'en fait, c'est vraiment vous?
Pour moi, principalement, c'est nous. Parce que, de toute façon, comme dit l'adage, hein, l'homme est un loup pour l'homme, donc le premier danger de l'homme, c'est lui-même. Et surtout, c'est que, justement, ça rappelle un peu toutes ces histoires un peu horrifiques, exemple d'histoire de zombies ou je ne sais quoi, où on montre comme quoi c'est les monstres, les méchants, mais en fin de compte, on se rend compte que tout ce qu'ils ont envie, c'est s'en sortir et bouffer, les monstres, hein, ils sont juste là, c'est une vague, qui force à l'humain, au lieu de donner le meilleur qu'il puisse y avoir, de montrer le pire qu'il puisse y avoir, en fait. Et malheureusement, le pire emporte sur le meilleur, et c'est les courses, en fait, les monstres, en général, on n'a même pas besoin de faire des attaques, même pas besoin en fin de compte, devenir vraiment un vrai danger, vu que l'humain finit par s'autodétruire.
Pour moi, la menace, c'est autant la communauté que nous-mêmes, et même le personnage est sa propre menace. Parce que là, finalement, dans cette partie, sans faire exprès, j'ai détruit mon personnage et toute une communauté. Donc, je pense que on est tous la menace. Les sirènes ne sont qu'un prétexte à l'isolation, à la paranoïa ou à la violence. C'est juste un prétexte à, en fait, qu'on se compacte, mais jusqu'à que la bombe implose, en fait. Cette violence, elle vient surtout, je pense, de cette communauté tellement isolée, tellement reclue, tellement désespérée, que le désespoir mène vraiment qu'à l'autodestruction. En tout cas, dans ce cas précis, pas dans la généralité des cas, mais... Marion.
Dans la lecture des sirènes et tout ça, je me demande si ça a vraiment une existence. Dans le sens où il y a quand même... Enfin, on sait à quoi ça renvoie quand même les sirènes qui sont... qui ont un peu une fonction, je te détourne de ton chemin pour t'attirer dans le fond des mers. C'est quelque chose de profondément fatale, en fait, c'est une figure de femme fatale, là, qui peut être juste ramenée à sa fonction de fatale tout court sans être féminine, hein, puisque c'est polymorphe. Et donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui nous envoie métaphoriquement, en fait, vraiment dans... qui est là pour réveiller vraiment notre pire, notre part la plus sombre, en fait. Et donc, c'est là pour nous détourner, et même l'adversaire, qui est un jeu de mots aussi sur l'averse, mais aussi, je le lis aussi comme un jeu de mots sur l'adversaire, qu'on appelle aussi comme ça, dans la Bible, c'est Satan, quoi. C'est le mal qui réside en nous, et qui paraît, il est là pour nous détourner, nous inciter, dans la Bible, hein, je ne suis pas, voilà, quoi. Mais du coup, qui nous donne une lecture vraiment assez religieuse du terme par rapport au bien et au mal, et c'est là pour nous détourner, en fait, de notre chemin, plus ou moins lumineux, quoi. Et donc là, c'est les gamins, ben c'est juste que c'est là pour, c'est un déclencheur, comme tu dis, pour réveiller notre part de mal en nous, quoi.
Surtout que c'est assez paradoxal, vu que l'enfant, comment à chaque fois on l'imagine, c'est un symbole d'innocence, de pureté, mais dans l'ibreté et même dans toute logique de choses, s'il n'y a qu'une communauté d'enfants, elle ne pourrait pas survivre. C'est l'humain est le seul animal qui ne peut pas s'autosuffire dans cette condition s'il est enfant. Il ne pourrait jamais s'en sortir. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, Marion, on ne joue que pour se voir mourir.
Voilà.
Donc, ça serait un jeu désespéré, finalement.
Bah, voir une tentative de suicide à retardement, en fait.
Marion.
Bah, ce que tu dis, c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Est-ce qu'on joue vraiment des enfants? Est-ce qu'on joue pas symboliquement juste la mort de l'innocence, la mort de notre part lumineuse, en fait? Parce que, comme tu dis, en fait, ça donne une lecture un peu communautaire d'adultes, enfin, d'enfants qui jouent à des fonctions d'adultes, mais finalement, dans notre société, est-ce qu'on n'est pas des, enfin, est-ce que l'adulte existe vraiment et joue pas lui-même des fonctions pareilles? Il y a cette lecture un peu ambiguë du jeu, quoi, dans le propos final.
Oui, je vois ce que tu veux dire.
Alors justement, dans la mécanique de résolution, puisqu'on en a commencé à parler avec la bile noire, justement, ce système est basé sur l'utilisation de bile noire sans avoir de caractéristiques, même s'il est propulsé par l'apocalypse, en tout cas un dérivé. Il n'y a pas de caractéristiques à vos personnages. C'est uniquement de la bile noire. Ça vous a inspiré quoi? En tout cas, est-ce que ça vous a perturbé de ne pas avoir de caractéristiques et de tous être finalement sur le même niveau d'égalité au départ? Est-ce que ça vous a poussé à jouer dans une direction ou pas, Paul?
Pour ma part, non, ça ne m'a pas perturbé. Au contraire, je trouve que le fait de ne pas avoir de caractéristiques, ça ne dit pas directement ce personnage est très fort, ce personnage est très intelligent, ce personnage est si beau, etc., etc. Mais le système de la bile noire repose sur le fair play du joueur, chose qui peut être, si les joueurs qui sont autour de la table ne sont pas, assez problématique, dans le sens où la bile noire est, comme on l'a dit un peu plus tôt, la bombe à retardement du joueur. Si le joueur ne veut pas prendre de risques, il n'aura jamais cette bile noire et donc n'aura jamais de pourriture ou de crise de démence. Un relâchement émotionnel. Donc c'est une bonne chose car ça peut amener à des situations totalement logiques en fonction de la situation, comme toi tu me l'as fait par rapport à l'affaire de la salle de bain, on n'en dira pas plus. j'ai rendu justice, voilà, point barre. J'avais le choix d'accepter ou pas mon craquage, mais le refuser était pour moi pas logique. Je pense que la bile noire n'est que en fait la logique d'une scène et ou la résultante d'une scène ou d'une situation. Donc pour moi c'est une bonne chose. Il faudrait peut-être intégrer peut-être d'autres manières dans d'autres jeux.
Lise.
Oui justement parce que je rejoins sur ce que tu dis parce que je suis complètement d'accord. Justement le fait que qu'on n'ait pas de caractéristique, ça fait que ce que j'aime beaucoup c'est qu'on soit justement sur un pied égal parmi des personnages et c'est justement c'est que ça permet d'avoir une évolution de personnage quand on va le jouer Ce qui est plutôt intéressant, parce que justement, voilà, c'est... contrairement à d'autres jeux, les situations, vraiment, on sait pas du tout ce qui va nous arriver, donc c'est vraiment vraiment de l'improvisation. Et justement, c'est que, au fur et à mesure, notre personnage, on construit. On a déjà un peu des idées de ce qu'on veut faire du personnage, mais au fur et à mesure, on va le construire. Justement, c'est tout ce côté un peu de la... d'être libre sur la représentation de ton personnage et sur ce que ça va amener, qui est vachement intéressante pour ça. Et justement avec ces fameuses billes qui font que plus ou moins on veut mettre de l'intensité, plus ou moins on veut plus ou moins que son personnage a une sensation dérangeante qui monte en lui ou au contraire justement qui se relâche très vite, qui trouve une solution pour pouvoir se débarrasser très vite de cette bille ou pas justement.
Marion ?
Tu veux savoir ce que je pense du fait qu'il n'y ait pas de valeur chiffrée et tout ça ?
Oui, exactement.
Je m'en bats les couilles, pour parler de manière triviale. Mais ce que je voulais dire sur le système de la bille noire et tout ça, c'est que par contre, je trouvais super intéressant, et même plus que... Encore, je suis d'accord avec vous sur le fait que du coup, on est un peu sur pied d'égalité et tout ça... Mais il y a un truc super poétique, en fait, dans la bille noire, parce que c'est, j'entends que votre langue fourche et vous dites bille noire, c'est intéressant, mais c'est aussi la bile. Mmh. Et la bile, en fait, c'est le spleen, en fait, qu'il y a en poésie, notamment chez Baudelaire. Oh, on revient à Baudelaire, ça se trouve, tout est lié. Eh bien, en fait...
Isabelle, Vivien Baudelaire fait à son, en fait.
Mais voilà, exactement. La bile noire, mais le spleen, c'est ce qui permet, par exemple, à Baudelaire de créer de la poésie. Et je trouve ce jeu super poétique, parce que déjà, dans son esthétique, elle est là. Et puis, comme chez la poésie baudelairienne, on n'a pas... Il n'y a pas d'éthique. Il y a le mal. Et en fait, c'est vraiment... Libreté, c'est un genre de fleur du mal qui pousse, en fait, en jeu de rôle, et dans laquelle on vient puiser notre créativité, quoi. Tu vois, c'est ouf, quoi.
Que c'est beau.
Moi, je dis, Vivien, tu passes trop dans le game si un jour t'écoutes ça, mais voilà. Non mais en vrai voilà, c'est ma pensée là-dessus.
Et alors justement sur ce système sans contrainte finalement et où le joueur doit être fair play comme a pu le dire Paul sur le fait de prendre de la bille noire, est-ce que ça vous a convaincu ou pas, Lise?
Oui. Tout à fait, ça m'a vraiment pas mal convaincu. Justement, je trouve que c'était très intéressant, surtout sur le personnage que Paul a joué, d'avoir vraiment pu jouer sur cette sensation, plus qu'on habile, plus le personnage a quelque chose qui est influé en lui, qui doit à tout prix se libérer, et c'est très très intéressant sur justement le gameplay du jeu. Si on joue vraiment fair play et vraiment le personnage avec plus ou moins de billes qu'on a, ça change complètement le jeu et les décisions qu'on peut avoir. Et justement, c'est de ce cas-là, je trouve que c'est très très intéressant de mettre justement l'espèce de jauge de sentiments néfastes. Et justement, ça permet de faire un jeu très intéressant. Pour au moins, il faut aussi que le joueur, enfin. Accepte cette situation de jouer et ne soit pas linéaire ou qu'il a tout pris envie que son personnage s'en sorte et que c'est le plus beau et que nanana nanana. Donc voilà.
Marion ?
Bah t'as dit sans contraintes. Moi je trouve qu'au contraire il y a quand même des contraintes et elles sont quand même pas mal émotionnelles dans le game design. Et puis ben encore une fois elles sont poétiques quoi, parce que c'est pas que une jauge vraiment, je pense que c'est vraiment un outil pour créer quoi, donc
ce qui signifierait que si le joueur en fait entre guillemets ne joue pas le jeu en prenant la bille noire, en fait il est pas là pour créer en fait.
Mais je pense que le jeu, enfin c'est un peu une encre à disposition quoi, tu vois, entre guillemets, donc c'est là pour venir tracer les contours de ton personnage. Qui on te donne un archétype où t'as juste les contours là, la bille noire est là pour le remplir, quoi, entre guillemets, quoi, je pense. Hein.
Est-ce que tu pourrais te retrouver avec des situations où des joueuses puissent décider de ne jamais avoir 5 billes noires pour ne pas craquer,
voilà.
Essayer d'optimiser un petit peu. Est-ce que dans ce cadre-là, on jouerait vraiment, entre guillemets, à liberté, ou est-ce qu'en fait, on se donnerait une limite, soit de créativité, ou de surprise, peut-être, hein, parce que finalement, comme Alice disait, ça a conduit à des scènes qu'on pourrait aussi ne pas anticiper. Est-ce que c'est finalement jouer véritablement au jeu si on décide d'optimiser son gain de bille vu qu'il est complètement libre d'accès ?
Paul. Pour moi, je pense que un personnage qui ne veut pas dépasser les 5 billes noires, c'est, en termes de roleplay, ce serait une personne qui est à chaque fois à la limite de voir sa bête ressurgir et de ne pas faire de catharsis. Comme l'a dit Marion tout à l'heure, c'est effectivement, je l'avais pas vu sur ce point de vue là, l'aspect poétique, mais oui, la bile est juste là pour qu'on évacue, c'est un vomissement émotionnel entre guillemets. C'est peut-être moins glamour que oui, Baudelaire, tout ça.
Oh, c'est bon quoi.
Non mais voilà, c'est. Je pense pas qu'un joueur qui ne cherche pas à avoir de craquage se limite dans la création, mais qui en fait cherche à ce que son personnage se contient cette violence émotionnelle. Vu qu'on peut toujours, de toute manière, parier sa bile noire, il y a toujours moyen de la récupérer. Et après, je sais pas si en termes de toi, adversaire qui est en face de moi, tu peux donner une bile noire gratuite ou pas.
Non.
Donc voilà. Non.
On peut conseiller, on peut en discuter, mais c'est quand même recommandé de laisser au libre arbitre du joueur et de la joueuse le choix de piocher ou pas la bile noire.
D'accord. Bah alors, je reste sur mon commentaire, donc c'est le... En termes de roleplay, peut-être que c'est le joueur qui ne veut pas prendre de risques, mais en termes de roleplay, hein, ça, c'est toujours justifiable.
Alors bien sûr, pour jouer, je vous avais expliqué ce qu'était la bile noire, quand est-ce qu'on en prenait, mais vous, comment vous l'avez utilisé? Dans quelles circonstances? Pour quelles raisons vous avez décidé de prendre des fois de la bile noire?
Pour ma part, c'est parce que en termes de roleplay, mon personnage subissait constamment une pression, étant le chef, il avait toujours la pression de ne pas vouloir décevoir les autres. Ne rigolez pas par rapport au résultat de la partie. Mais le personnage, là, il subissait énormément de pression et ne supportait vraiment pas qu'on le défie, qu'on lui tienne tête. Enfin, c'était une femelle alpha. Donc voilà, elle dominait la meute et dès que la meute n'était pas contente, elle les menaçait qu'un sur un.
Pour toi, Marion?
Alors, ça me faisait... J'aimais bien prendre de la bile noire quand vraiment je sentais que... D'ailleurs, je la piochais pas immédiatement, c'était vraiment quand je subissais un moment vraiment pénible pour mon personnage et pour moi à travers ce biais-là. Et c'était vraiment quand je sentais le sentiment d'angoisse ou le sentiment de me sentir oppressée, je finissais par piocher cette bile noire et ça concrétisait mon malaise en fait vraiment et je montrais en même temps aux autres que j'étais vraiment en PLS mental encore une fois quoi. Parce que c'est super éprouvant quoi.
Pour toi Lily?
Alors pour moi en fait la situation a fait que mon personnage n'a pas pu trop utiliser cette chose de bile noire parce que la situation est faite que normalement mon personnage en récupérait quand il se sentait humilié ou mis dans une situation de moquerie. C'est que là rien n'était pas le cas. Il était en situation de puissance, donc il avait justement, au contraire, pas besoin d'en avoir énormément. Il en a eu à un moment donné durant une discussion parce que mon personnage est très, c'est le chien de garde du chef. Donc il a pris une bile noire parce que il a eu un non-respect envers le chef. Ce qui, c'est à ce moment-là que j'en ai récupéré une. Mais
lorsqu'une des personnes à la table prenait de la bile noire, quel était votre ressenti? Que là, vous avez expliqué quel était votre ressenti quand vous en preniez pour votre personnage, mais quand vous, joueur, vous voyez une autre personne prendre de la bile noire, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pensiez à ce moment-là? Marion?
Ben, ça va faire peut-être grosse connasse de dire ça, mais franchement, quand je voyais Paul piocher de la bile noire, j'étais super contente, je me disais, ah ah, il est angoissé et tout, c'est trop bien, enfin.
C'est sincère aussi.
J'éprouvais une forme de sadisme en fait, mais je voyais qu'il prenait plaisir à souffrir donc.
Pour toi, Paul.
Pour moi, je vais passer pour quelqu'un de trop gentil. À l'inverse de Marion, j'étais triste quand je voyais Luciole prendre la bille noire parce que mon personnage était dans l'instant trop occupé pour lui prêter attention et lui apporter du réconfort. Donc je me dis, eh non, tu peux pas l'aider, tu fais ça. Et en fait, non, moi j'étais dans la tristesse de voir Luciole ou Negan prendre prendre la ville noire. Et donc désolé.
Je dois avouer, au début de partie, quand au début tu commençais à piocher de la bile noire parce que tu étais angoissée parce qu'on évoquait ton âge avancé, 13 ans et demi, dans l'univers de Libreté, j'ai rajouté 2-3 remarques au hasard, enfin pas au hasard du tout, dans mon dialogue pour essayer de créer plus d'angoisse chez toi parce que...
J'avais remarqué.
Voilà, c'est mon coming out, mais vraiment j'avais envie de te faire souffrir un petit peu plus au passage, tu vois. Enfin, voilà.
D'accord.
Désolée.
En tout cas, oui, c'est vrai que, enfin, moi, la sensation que j'avais quand je voyais le personnage avoir une ligne noire, c'était, oups, mince, il va se passer quelque chose.
Ah oui, toi, c'était vraiment, ah merde, il va me tomber une merde. C'est pas, ah merde, le pauvre, c'est, ouh, super.
C'était pas spécialement, vient de tomber quelque chose sur le coin de la gueule, c'était, il va se passer quelque chose. C'était la situation générale. C'est que justement, chaque personnage joue individuellement, mais a quelque chose de répercuteur sur la communauté.
D'accord.
Donc, voilà, c'était que, à bout d'un moment, s'il y a un personnage qui pète un plomb, ça va tomber sur tout le monde. Donc, la situation de l'histoire va avoir un rebondissement.
Donc, on avait la connasse, la pragmatique et l'innocent. Donc, adversaire, et toi, comment tu ressentais?
Oui,
comment tu ressentais le fait que tu nous voyais piocher cette bile noire? Est-ce que t'étais heureux, triste ou pragmatique?
Alors, aucun des trois, en fait. Je sais pas comment on pourrait l'interpréter. En fait, moi, je le voyais comme étant le fait d'avoir accès à vos sentiments, en fait.
Oh.
Et de me
et
dire...
le poète.
Non, sans faire... Non, sans vouloir faire de la poésie, comme Marion, j'ai vraiment pas le niveau, mais juste, ça me permettait de me dire, ok, là, Paul prend de la bile noire dans cette situation-là, je peux supposer qu'il a ce sentiment-là, et donc de comprendre, au-delà de la feuille de perso dont on va parler juste après, mais au-delà d'avoir des apparences, c'est de me dire, ok, il interprète son personnage de cette manière, même s'il y a des guides dans la feuille de perso d'interprétation, c'était la manière dont Paul le voyait. Et pareil pour Marion, pareil pour Lise, et donc, moi, j'ai l'impression d'avoir une vision, en fait, de votre ressenti et de votre interprétation de votre personnage. Et vraiment sur le côté sentiment, puisqu'effectivement, c'est est-ce que je suis angoissé, est-ce que je suis triste, etc. Et ça le matérialise. Et moi, ça me permet, en tout cas, ça me donnait l'espoir d'avoir accès à ce côté intime. Alors, c'est peut-être un peu du voyeurisme, finalement. Mais...
Enfin, je veux dire oui.
Donc, à la table, il y avait un voyeur, en tout cas. Puisque moi, ça me donnait cet accès, en tout cas, d'avoir la sensation d'avoir accès à cette information que, ben, moi, dans les autres jeux, j'ai pas l'impression d'avoir accès, en fait. Puisqu'il n'y a pas cette matérialisation des craintes, de la frustration, de la colère. Et là, je la voyais en déroulé. Donc, d'accord. Oui, effectivement, il y a un petit côté voyeur de ce côté-là.
J'aurais plutôt dit psychologue, comme ça, tu pouvais analyser le sujet. Ça faisait moins dégueulasse.
Alors, non, parce qu'en fait, je cherche pas à vous analyser, mais plutôt de comprendre votre personnage.
Oui, non, mais
au-delà
psychologue du personnage.
Oui, si on veut. Alors, effectivement, ça fait moins dégueulasse, mais peut-être qu'il y a un côté, effectivement, voyeur, de se dire, ok, je comprends maintenant comment est-ce qu'il voit son personnage, comment vers quel sens il va, et pourquoi aussi, dans quelle situation, il ne prend pas de la bile, alors que moi, j'en aurais pris, personnellement.
Ah, tu fais un comparatif, en fait.
Ça m'arrive à d'affaires, effectivement, des comparaisons, me disant, tiens, sur cette scène-là, moi, j'en aurais pris, alors que sur telle autre, je l'aurais pas fait.
Il y a un peu une idée comme quelqu'un devant un jeu vidéo à choix multiples, avec ce côté on a tel ou tel personnage non joueur avec moi, on voit un peu à quoi ressemble ce personnage là et aux questions qu'on veut lui poser, on va finir par malgré tout le diriger, mais en même temps il est libre de représenter son personnage. Il y a un peu un côté comme ça, comme tu dis, un peu entre parenthèses voyeurisme. L'autre c'est ce côté on vit la vie de ces personnages là mais en même temps, on y est quand même dedans. Donc.
Marion.
Pour continuer sur ta comparaison avec le jeu vidéo, ça fait penser par exemple au jeu Telltales, je crois. À la fin, tu fais tes choix narratifs, puis à la fin du jeu, ils te disent ouais, il y a 36% des joueurs qui ont choisi de faire ça, tu vois. Enfin, pour voir à quel point ça a marqué les gens ou pas, ce qu'ils ont choisi moralement de faire. Et quand j'ai dit ah ouais, quand tu parlais de voyeurisme, en fait, c'est parce que j'avais pas eu cette lecture-là. Mais c'est vrai que ça donne accès vraiment aux sentiments des gens et tu vois vraiment ce qui les marque profondément. En fait,
Et même, je vais encore rebondir sur finalement le ping-pong Marion-Lise. L'aspect tel où c'est vraiment très intéressant. Moi, j'adore faire d'abord le Telltale et le jouer avec des potes, juste pour aussi voir comment eux ils réagissent et quels choix ils vont faire. Donc c'est exactement pareil que toi, mais sans le côté pourcentage. Donc ah ouais, toi tu fais ça, presque un peu un juge, mais sans l'aspect condamnation, en mode ah d'accord, toi tu fais ça. Et pourquoi? Et presque des fois on débat juste pour savoir pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça, et c'est très intéressant. Marion?
Mais Paul. Eh bien, en fait, effectivement. Effectivement, ça sert de miroir de conscience, ce système-là, quoi. Vraiment, c'est cool.
On va anticiper, mais effectivement, pour vous, la place du MJ, c'est quoi dans ce jeu? Elle est omniprésente, elle est complètement absente, c'est quoi son rôle?
Bah, personnellement, il est quand même important. Parce que c'est lui qui permet que le jeu ne parte pas trop dans, enfin, n'importe où. Il est quand même là pour encadrer, malgré tout. Surtout, c'est qu'il est là quand même pour nous donner des petits moments qui vont faire qu'on va rebondir aussi. Des situations, des détails qui fait que le jeu ne va pas se tarir, va pas rester bloqué sur quelque chose. Au bout d'un moment, ça peut arriver, justement, que les joueurs, ils bloquent sur quelque chose, qu'ils n'arrivent pas. Et là, le MJ va faire qui va faire rebondir et donner un nouveau souffle dans l'histoire, et donc d'où l'importance quand même du MJ dans cette histoire là. Paul.
Pour moi, l'importance du MJ, comme l'a dit Liz, c'est vraiment pour permettre ces petits rebondissements. Il y a vraiment l'effet que le joueur est plus important dans la narration que le MJ, parce que c'est pas les joueurs qui rebondissent sur les propos du MJ, c'est le MJ qui rebondit sur les propos du joueur, dans le sens où on a créé d'abord Libreté, et c'est par rapport à ce que on a dit, pas ce que lui a choisi, que on va rebondir. Donc déjà, ça place le MJ, je dirais, si on devait faire un pourcentage entre le joueur et le MJ dans l'importance, je dirais que les joueurs sont plus important à 70% et que le MJ à 30%. Mais que derrière, pour s'amuser, il a quand même cette épée de Damoclès qui place à la tête, au-dessus de la tête des joueurs chaque fois qu'il y a les 5 billes noires en mode « Tiens, regarde ce qui va se passer. Est-ce que tu l'acceptes ?» Je pense que là, c'est vraiment l'aspect le plus important. C'est quand le personnage a ses 5 billes noires que le MJ sort tout son potentiel avec une flamboyance sadique.
Surtout que en fait la particularité du MJ, c'est que même s'il joue des fois des personnages secondaires, qui est vachement bien, bon, dans tout MJ en général, c'est qu'il a une espèce de barrière qui fait que lui il voit vraiment en dehors du jeu les situations de ce qui se passe. Donc il peut plus facilement peut plus facilement rebondir sur les situations, parce que comme les joueurs, surtout dans un jeu comme ça où c'est très très important, on joue vraiment un roleplay très 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 important. Quand il nous arrive quelque chose, quand notre personnage genre a 5 billes noires et qu'il est complètement submergé de sentiments néfastes, et que le personnage, donc enfin que le joueur joue réellement bien ce personnage-là, des fois il a des choses qu'il ne voit pas, et le MJ derrière justement peut se permettre de pouvoir dire ah, là ton personnage est-ce que tu veux vraiment qu'il craque ou pas, ou choses comme ça. Ça permet justement au joueur de pouvoir vraiment se repositionner, faire des challenges ou pas, et que s'il était tout seul, s'il n'avait pas eu de MJ, il serait peut-être bloqué à ce moment-là.
Paul.
Effectivement, je n'avais pas si vu ça, mais effectivement, le MJ maintient cette intensité émotionnelle en rajoutant toujours un peu de charbon dans le, j'ai dit la flamboyance sadique, mais en fait, c'est ça, en fait, tu rajoutes du charbon dans l'émotion pour raviver, voire pour augmenter la chaleur de l'émotion. Tu maintiens ton rôle de MJ dans un jeu post-apo, donc forcément être méchant d'une certaine manière. Mais après, je ne sais pas si tu aurais eu l'occasion de faire une approche un peu plus gentille de la chose en apportant, tu vois, je sais qu'il y a d'autres archétypes dans le sens, le petit bout de chou ou la maman, dans le sens, avoir un personnage un peu plus grand, voire qui avait 14 ans et qui nous aurait pris, mais ça va aller, ne t'inquiète pas, on t'aime, je suis ta maman, ou regarde comme je suis trop mignonne, juste pour refaire redescendre en cas de crise émotionnelle.
Alors, Je pense que ça pouvait être possible, effectivement, si ce n'est que on peut jouer ce jeu, moi je le vois bien, en mini-campagne. En mini-campagne de 5-6 séances. Ouais. Et c'est vrai que le bac à sable que vous aviez créé au départ était hyper inspirant, avec des scènes, effectivement, qui étaient tous liées, alors, involontairement, finalement, de la part de Paul, et ses petits papiers mal compris par les enfants en face. Mais toutes les pièces du puzzle sont mises en place, et très franchement, je pense qu'on était largement en capacité de jouer 3-4 séances dessus, mais dans un mode, effectivement, plus apaisé, ou en tout cas plus tranquille. Ou en tout cas, on aurait pris chaque problématique les unes après les autres, là où effectivement, j'ai fait en sorte que les pièces s'assemblent au bon moment, au même moment, alors que ça me semble un peu cohérent, mais effectivement, en bousculant un peu, et effectivement, derrière, en augmentant l'intensité émotionnelle de la situation, des révélations, parce que finalement, les papiers étaient qu'entre les joueurs et pas du tout connus de tous.
Les papiers ont été donnés de manière roleplay, mais n'ont pas été...
Mais le contenu n'était pas connu par les autres joueurs.
Ouais, c'est ça.
Donc il y avait aussi ce côté révélation que les autres personnes ne pouvaient pas savoir. Marion ?
Pour revenir au rôle du MJ... on a beaucoup parlé du rythme, dans le sens où effectivement il vient accentuer en fait le sentiment d'oppression. Mais je dirais aussi, il vient, et c'est peut-être le plus important, il vient aussi apporter la situation d'espoir. Et finalement, c'est ça qui est le plus cruel dans Libreté, c'est parce qu'à un moment donné, on accède à un moment donné à une espérance de lumière. On espère que notre sort va s'améliorer. On est mis dans une situation que on pense que ça va aller mieux, ou alors on est apaisé pendant le temps d'une scène, pour finalement que ça nous soit repris. Et ça, c'est créé par le MJ pas mal, cette situation où il va y avoir, à un moment donné, on va essayer de toucher du doigt l'amélioration de notre sort, en fait.
Quand est-ce que t'as vu de l'espoir dans cette partie? Désolé, mais je n'ai pas vu une once d'espoir dans cette partie.
La situation d'espoir, elle a été créée quand, à un moment donné, t'as voulu renverser les castes, comment elles étaient gérées, et le sort de chacun, en fait.
Je partage ta vue aussi.
Ah oui, donc c'est le joueur qui a ramené, ça n'a pas été le MJ qui a redonné espoir.
Oui, mais quelque part,
tu vois ce que je veux dire.
Ouais, tu as participé, mais le MJ aussi grandement quand même avec la
gestion des PNJ
et tout ça quoi.
C'est vrai, il aurait pu dire non, on a toujours fait comme ça et on le restera.
Exactement, il a saisi la perche pour essayer de tendre à ce qu'on ait un espoir temporaire de.
Oui, c'est vrai.
D'amélioration quoi, tu vois.
J'accède à ce que tu dis.
Et puis après, c'est aussi le tentateur, c'est lui qui nous pose les choix de tu vas craquer ou tu vas pas craquer.
Ouais, ça tirait bien.
Alors, sur vos feuilles de personnages, vous les avez trouvées comment? À savoir, est-ce que vous les avez trouvées lisibles? Vous avez trouvé les informations facilement? Ou il y en a trop? Est-ce que ça vous a aidé dans votre interprétation du personnage?
Alors, personnellement, je trouve qu'elle est très bien. Ça nous permet justement de pouvoir faire un petit choix dans ce qui est proposé. Et puis après, justement, ça donne suffisamment de renseignements pour pouvoir concevoir son personnage. Donc suffisamment pour les personnes qui ont du mal à créer un personnage tout de suite sur le vif, il y en a suffisamment pour en créer un au début. Et pour ceux qui aiment par contre en créer, il a suffisamment justement de renseignements pour pouvoir après de même faire imaginer un peu la suite. Donc on peut piocher et je trouve très lisible aussi. Donc voilà, au niveau on va dire fiche personnage de jeu de rôle, c'est une des plus lisibles que j'ai pu avoir.
Paul.
Pour moi, je trouve que les fiches de Libreté ont un bon starting block par archétype. Donc, il y a le rôle donc qui explique comment, si on n'a pas d'idée de prénom directement, comment on le voit, ce qu'il possède, comment il peut gagner. Bien entendu, ça à chaque fois, c'est suggéré. On n'est pas obligé de suivre le starting block de la feuille, mais c'est... très sympa pour les personnes qui n'ont pas de facilité à avoir de nouvelles créations dans l'immédiat. Donc moi je trouve que les feuilles sont très bien faites, il y a même aussi un petit récapitulatif des règles. Elles sont après c'est comment aux fiches d'Apocalypse World, des systèmes Apocalypse, où il y a quand même un bon starting block derrière, peut-être pas aussi développé que celui de Libreté, mais c'est quand même une condition du cahier des charges des feuilles. Marion.
Eh ben moi j'ai envie de dire c'est presque parfait quoi. Faut franchement non mais en vrai c'est une des plus lisibles que j'ai jamais eu entre les mains. Il y a tout pour faire vite son personnage puis en même temps c'est touchant parce qu'on sent que derrière les éléments qu'il y a pour créer son personnage il y a les résidus de tous les enfants qu'on jouait en fait avec cet archétype là dans la création du jeu quoi. Et ensuite, bah, c'est visuel, la bille noire, bah, on voit directement c'est dans un coin là pour se repérer, voir ce que ça implique et tout. Enfin, c'est super bien classé. Enfin, c'est visible, c'est lisible et c'est clair quoi. Après, si je devais faire ma relou vraiment, juste, je pense que ça devrait être écrit un peu plus gros. Et moi, je trouve que, enfin, c'est un truc qui est pas trop abordé dans le jeu de rôle, mais je pense qu'il faudrait plus de fiches en 14 pour les dyslexiques parce que ça faciliterait beaucoup. Tu es dyslexique, est-ce que ça t'a un peu... Enfin, je sais que ça freine beaucoup les dyslexiques de si petit.
Voilà, c'est un problème. En plus, sur cette feuille de personnage, c'est pas le manque de place qu'il y a, parce que quand on regarde les feuilles d'archétypes, il y a vachement de place. Agrandir à peine peut-être de 1 ou 2 la police pourrait être vachement plus sympa pour aussi les personnes qui ont une mauvaise vue, qui portent pas forcément leurs lunettes, ou les dyslexiques comme moi. Après, moi, j'ai fait un gros travail sur moi-même par rapport à ça et énormément de concentration. Et là, en plus, la fatigue ne facilitait pas les choses.
Ouais, ouais, c'est chaud pour les dyslexiques, vraiment. Je le dis, si jamais il y en a qui le lisent, quoi, faites des fiches de perso avec des caractères plus gros, quoi, parce que c'est vraiment handicapant pour eux, quoi. Voilà, c'était l'instant prof.
T'as fait raison, c'est vrai qu'en plus, si on avait des choses à... Là, c'est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de lire tout à voix haute, mais c'est vrai qu'en tant que dyslexique aussi... on peut ça peut nous permettre des fois d'avoir pas sauter des lignes quoi sur plus ça sera gros mieux on arrivera à lire, c'est sûr.
Ouais ouais, mais sinon elle est parfaite hein, la fiche de perso,
très bien.
C'était juste pour faire chier quoi, mais sinon tout est bien quoi.
Oh là là, les chiens, oh là là.
Mais ouais, je suis ma relou quoi, on me demande mon avis, je le donne, c'est bon quoi. Donc,
et si je veux faire aussi à peine mon relou. Comme ça, tu n'es pas la seule à faire ta relou.
Trop bien.
On est deux. Peut-être un peu plus personnaliser la feuille. On retrouve là un peu la typo de dans les titres, mais à part un petit dessin sur la feuille, on ne voit pas beaucoup l'aspect illustration ou même ce que les illustrateurs ou les game. Et là, je vois beaucoup de mains qui se lèvent. D'accord. J'ai peur, je me sens jugé.
Non, justement, c'est pour pouvoir rebondir sur ce que tu dis. La majorité qui le dit, justement, c'est que, justement, ça serait pas mal de pouvoir avoir un encadré, peut-être pour les personnes qui ont envie de dessiner son personnage, ou simplement faire deux, trois annotations en plus. Ça serait intéressant.
Marion.
Moi, je voulais juste ajouter un petit point historico-ludique que je trouve qu'on sent quand même si c'est vachement les trucs de propulser par la Et ben, on sent quand même l'influence de Little Fierce dans la formulation à la première personne de « Ah, je me sens mal, je suis un peu mal en point, gnagnagna ». Ça, on sent l'historique du jeu de rôle enfant horrifique, en fait. Mm-hmm. C'est ça que je voulais dire.
Ah, petite question perso à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais pourquoi vous avez choisi ces archétypes?
Donc, vraiment, je ne voulais pas faire l'archétype de « je suis le chef » à la base, mais je me suis senti un peu obligé par les gens autour de la table par rapport à une phrase que j'ai dit avant la partie, et dès que j'ai regardé les archétypes, on m'a lancé le regard « Hey, tu vas prendre le chef !» Donc, donc j'ai voulu leur faire plaisir et j'ai pris le chef. Mais autrement, je voulais prendre la brute ou le solitaire.
Et finalement, en ayant fait plaisir aux autres, finalement, t'as continué à le jouer de cette manière, en fait, le personnage. Puisque tout ton personnage de chef était basé sur le fait de pas déplaire aux autres et de contenter tout le monde, de faire plaisir à tout le monde. Et finalement,
oui, mais ça c'est du méta-jeu. Mais oui, je suis très gentil.
Non, mais finalement, l'idée est pas de savoir si t'es un connard ou t'es gentil. Mais l'idée, c'est de dire, effectivement, malgré le fait d'avoir choisi le chef pour faire plaisir, finalement, ton interprétation du chef a été la même, en fait.
Ah oui, oui, oui. Peut-être que finalement, je ferai devenir chef.
Alors, peut-être pas, vu la conclusion de l'histoire. Mais,
j'ai les bons sentiments pour être chef, mais je ne saurais pas le faire. Conclusion de l'histoire. Donc, Lise.
Bon bah alors justement à l'origine de quand il y a eu une discussion sur l'archétype que Paul devait choisir au début, donc je m'étais intéressée à faire l'archétype de la maman, qu'il avait pris l'archétype du chef. Je me suis restreinte à reprendre un archétype que j'ai déjà pris avant, que j'avais bien apprécié à faire, qui est donc celle de la brute. Si j'ai choisi la brute, c'est parce que justement, je pouvais jouer un personnage que je ne suis pas du tout. Ce personnage-là est quand même beaucoup sur la violence gratuite, sur la position de force. C'est quelque chose que je, à l'origine, dans la véritable vie de tous les jours, je n'aime pas. Je n'aime pas la position de force sur quelqu'un. Je n'aime pas être brute sans réfléchir. Donc voilà, ça m'a permis de jouer quelque chose plutôt marrant.
Et Marion. Pourtant. Et pourtant, tu ne l'as pas joué brute. Tu l'as joué comme quelqu'un de protecteur. À aucun moment, je t'ai vu menacer gratuitement ou être la brute, en fait.
Non. Oui, je avoue que c'est vrai, parce que la situation me permettait d'être comme ça. En plus, bon, déjà, je m'avais intéressé de voir pour la maman, donc elle avait un côté protecteur. Mais surtout, c'est que, comme je l'ai dit, je suis pas un brut brut de décoffrage, je suis un brut qui réfléchit. Mmh. Donc là, la situation a fait que j'étais plus dans l'histoire de la protection. Mais si le chef m'avait dit de dire attaquer, enfin il m'a dit attaque, j'aurais attaqué. Voilà, donc j'aurais été le pitbull quoi.
À la Danny the Dog. En fait aussi, je crois que tu l'as dit un peu plus tôt, mais tu n'as pas été une brute parce que à chaque fois tu étais en position de puissance,
voilà.
Et pas en position de je dois montrer que je suis le dominant. Mmh. Donc là, c'est aussi peut-être pour cet aspect-là que tu n'as pas montré ton archétype, voilà. Dans le sens littéral qu'il devrait être.
Marion.
Ben moi j'ai joué le bizarre. What un commentaire. Non, c'est... Donc, pourquoi j'ai choisi le bizarre? Ben j'avais déjà fait une première partie de Libreté à RPGR cet été et j'avais eu l'occasion de jouer à cet archétype là qui m'avait beaucoup marqué parce qu'il avait vécu une histoire absolument tragique. Mais après, si on doit rentrer dans des considérations plus personnelles, je pense que au fond de moi, je suis une grosse chelou. Et du coup, j'ai toujours été attirée par les personnages un peu marginaux, donc je prends beaucoup de plaisir à jouer ça en général. Donc voilà, je me suis fait un kiff.
On va rentrer dans l'univers de Vivien, puisque Libreté, c'est un spin-off de Perdu sous la pluie. Pour vous, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir joué à Perdu sous la pluie, justement, pour apprécier Libreté?
Non. Personnellement, non, parce qu'en plus, je n'y ai pas joué à Perdu sous la pluie. Bah, j'ai pu rentrer dans l'univers complètement sans avoir dû jouer au jeu principal à l'origine. Donc, non, je pense que c'est un spin-off qui peut se jouer par lui-même facilement, sans savoir tout de A à Z de l'univers qui est proposé.
Marion ?
Mais pas du tout. Je pense qu'on peut tout à fait ne pas jouer à Perdu sous la pluie et profiter pleinement de Libreté. Et je dirais même que Libreté est beaucoup plus plaisant à jouer que Perdu sous la pluie, qui est beaucoup que j'ai apprécié aussi, mais qui est quand même beaucoup plus lourd dans la mécanique, et puis qui souffre de manque de rythme aussi. Donc celui-là est beaucoup plus plaisant, et je trouve qu'il n'y a pas besoin de Perdu sous la pluie, hein. En vrai, il peut rester perdu.
C'est une gratuité.
Oh, c'est pour le bon mot, ça va.
Pour ma part, je suis d'accord avec vos deux avis. On n'est pas obligé de jouer à Perdu sous la pluie pour jouer à Libreté, bien que ça puisse faire une scène d'introduction de Perdu sous la pluie vers Libreté.
Un prologue.
Un prologue, exactement. Moi, j'y ai pas joué, mais j'étais un jour où j'ai travaillé à côté d'une partie de Perdu sous la pluie. J'ai vu que c'était beaucoup plus lourd, beaucoup plus lent, beaucoup plus manque de rythme. Donc, je pense que faire jouer un Perdu sous la pluie, mais avec les mécaniques de Libreté.
Est-ce que c'est vraiment possible?
Je crois pas non plus. Ouais. Voilà. Moi, j'ai pas l'impression. Après, non, mais ça serait un gros boulot, je pense, d'adaptation là.
Mais vous comprenez ce que je veux dire.
Tout à fait.
J'ai compris ce que tu veux dire.
Alors, c'est bien, non. Je me sens pas seul dans mon petit cœur.
Alors, vu qu'il n'est pas nécessaire d'avoir joué à Perdu sous la pluie pour jouer à Libreté, si maintenant je vous demandais de jouer à Perdu sous la pluie, est-ce que le fait de connaître Libreté changerait votre manière de jouer, de voir le jeu, notamment parce que vous connaissez mieux l'univers?
Pas spécialement. Lise. Pas spécialement, parce que justement, apparemment, de ce que je connais du jeu, parce que je n'ai pas joué, mais de ce qu'on m'a dit, pas du tout la même ambiance, point de vue, même si on est sous la pluie, qu'il y a ces histoires de monstres qui seraient aux alentours, il n'a pas la même, c'est pas la même façon de jouer. Il y a quelque chose qui, justement, dans Libreté, on est beaucoup plus libre, beaucoup plus à pouvoir jouer vraiment son personnage avec ce qu'on a autour de nous, que là, ce que j'ai entendu, en tout cas sur Perdu sous la pluie, où on est vraiment qu'un petit groupe qui, au fur et à mesure, va devenir de moins en moins, avec une sensation un peu de petit nègre dans l'histoire, en fin de compte, il a une angoisse. Donc on peut jouer sur le fait de l'angoisse, sur le fait de la méchanceté, si on veut s'en sortir, qu'on fasse que l'autre disparaisse avant nous. Mais il a ce côté de jouer avec les autres qui est beaucoup moins présent, on va dire. On joue plus contre les autres pour que nous on s'en sorte que au contrario, justement en liberté où on peut essayer de s'en sortir avec les autres.
Paul, un avis? Je suis à peu près d'accord avec Liz, sauf sur l'aspect coopératif de Libreté. Libreté n'est pas forcément un jeu coopératif. Je pourrais même dire que tout dépend de la volonté du MJ et des joueurs autour de la table, mais Libreté peut être véritablement génocidaire pour les joueurs, ou un joueur...
En tout cas les personnages.
Oui, pardon.
Ouais, non, on va rester sur les persos. Hein.
Mais par exemple... Là, on va parler un peu de la partie pendant juste 2 secondes. Pendant que tu sais que tu m'as arrêté, pendant que j'étais en train d'étrangler Malik, si tu m'avais raté, ça aurait été toi que j'aurais étranglé à mort. Je l'avoue. Et je pense que là, Jérôme, on aurait profité. T'as 8 billes noires. Tu veux l'étrangler à mort ou tu veux faire un jet? Et là, je pense que dans le cas d'un craquage, dis-moi si je me trompe. D'accord, merci d'être honnête.
J'opine du chef.
Et là, je pense que les craquages sur un PNJ et les craquages sur un joueur, c'est là où ça diffère. Je pense que les craquages sur un PNJ, on va dire, bah non, c'est un PNJ, c'est pas grave. Mais un craquage sur un joueur, je sais pas.
J'aurais pas conduit à la mort du personnage.
Oui, non.
En de liste, soyons clairs. C'est vrai que j'aurais pu effectivement te faire craquer pour avoir des effets sur le personnage Cavellis. Après, pour moi, la mort d'un PNJ n'est pas anecdotique justement.
Non, mais tu vois ce que je veux dire.
Mais par contre, effectivement, en tant que MJ, c'est un peu un des principes d'Apocalypse World, c'est de la chair à canon.
Ah oui, totalement.
Et s'il doit disparaître, il doit disparaître. Mais par contre, il faut que ça génère aussi de la narration.
Ah, mais je suis totalement... Je suis peut-être très mal exprimé. Je ne voulais pas dire que la mort d'un PNJ est anecdotique.
Mais en tout cas, elle est plus immédiate, par contre.
Elle est plus immédiate dans la narration. Moi, personnellement, tuer des joueurs, je suis MJ... je suis MJ à 99,9% du temps et tuer des joueurs...
Des personnages.
Sinon tu es un serial killer.
Oui, surtout vu ce que je vais dire ensuite, on compte plus ceux qui survivent que ceux qui meurent. Donc oui, ça rejoint ce que tu dis.
Pour rebondir sur le fait que tu dis on peut faire des trucs génocidaires, ça il n'y aura pas de rapport entre les personnages. Ce que je voulais dire, c'est que contrario à Perdu sous la pluie, c'est que il a une interaction que ça peut plus ou moins être bien ça peut être que le personnage entraide ou pas. Mais j'ai l'impression qu'il y aura plus d'altercation dans Libreté que dans Perdu sous la pluie, où c'est quelque chose que Perdu sous la pluie, c'est obligé que tu fasses vraiment penser que pour ta pomme. Alors que Libreté, t'as vraiment le choix de faire quelque chose plus ou moins bien. Ton personnage, s'il est égocentrique et tout, ça sera que pour sa pomme. Par contre, si tu veux que ton personnage, il est égocentrique, mais il se rend compte qu'en fin de compte, il faut qu'il ait de l'aide d'un tel pour pouvoir s'en sortir et accéder à la chose, tu peux plus facilement y jouer dans Libreté, parce que ce qui t'entoure te permet. Ce que t'as construit autour te le permet.
Alors, je vais mettre juste un petit bémol sur le fait que ce soit injuste, où on joue juste pour sa pomme dans Perdu sous la pluie, parce qu'il y a quand même une mécanique de sacrifice qui te permet de te sacrifier pour un autre personnage, et effectivement on n'est pas complètement dans un mode où on va penser qu'à la survie de son personnage, mais on peut se sacrifier pour un autre pour plein de raisons sur la narration. Donc il y a quand même un petit mécanisme qui permet d'avoir un frein et de pas justement être dans un mode il faut être le dernier à survivre, et donc on va toujours voter de manière à ce qu'on élimine toujours les autres et pas moi.
Ce que je voulais dire aussi, c'est que on a une situation où il y a un jeu où on fait que avancer, et un autre où on peut rester dans une situation on peut faire tout un jeu que dans un endroit, mais on a vraiment un travail avec tout cet endroit-là qu'on a créé justement au début, qui fait que on échange et on fait que ce lieu-là permet aussi d'avoir des échanges avec les autres personnages. Que l'autre, j'ai l'impression qu'on est vraiment en train de marcher.
On est d'accord. Et puis l'objectif, effectivement, c'est à la fin, il en restera qu'un.
Voilà.
Et ça, c'est vrai. Alors, vu qu'on est sur un univers étendu, un peu à la Thomas Munier et son Millevaux, où il développe plusieurs jeux dans son même univers, là, on est qu'au deuxième jeu dans l'univers de Perdu sous la pluie, mais vous qui connaissez donc les deux jeux maintenant, vous aimeriez voir quoi explorer par Vivien s'il devait développer un troisième jeu dans cet univers?
Alors, personnellement, j'aimerais bien savoir où vont ces gamins qui disparaissent, quoi. Ça, c'est vraiment la très grosse question qu'on se pose, c'est pourquoi il se passe à tel âge, bien précis en plus, et voilà. Mais c'est, en même temps, ça peut être un truc qui pourrait vraiment être en annexe, vraiment une annexe, qui peut être en fait même quelque chose où on peut penser que c'est la raison, la réponse, mais en même temps, il faut que ça soit vraiment un truc qui soit vraiment en annexe, qui te donne en disant, ah, c'est un nouveau jeu et tout, et ça te permet d'en savoir un peu plus. Mais en même temps, c'est terriblement intéressant aussi de pas le savoir, parce que ça laisse tellement d'imagination, tellement d'intrigue dedans, quoi.
Marion,
moi, je pense que j'ai pas lu le bouquin, mais je pense que les gosses qui disparaissent à bout d'un certain âge, parce qu'ils sont pourris en fait et qu'ils se transforment, ils doivent rejoindre les sirènes, une connerie du genre, non, un truc. On sait pas.
Alors en fait, il y a des pistes de réponse. Il y a des explications sur que deviennent les enfants avec la pourriture, que deviennent les enfants à l'âge, mais ce sont que des pistes. Et le bouquin dit clairement, MJ, avec votre table, faites ce que vous avez envie. Donnez l'explication que vous avez envie. Donc, il y a des explications qui sont données, mais elles disent clairement, si à votre table, vous souhaitez faire autrement, vous pouvez tout à fait l'interpréter d'une autre manière. Notamment sur le fait qu'ils disparaissent à un certain âge. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Il y a vraiment deux pistes qui sont explorées. En tout cas, on vous dit, il y a bien deux pistes. Vous choisissez celle que vous voulez. Mais il n'y a absolument pas le secret du jeu, c'est ça, il faut le découvrir. Et de toute manière, il n'y a qu'une vérité.
Donc tu vas pas nous les dire.
Je peux vous le dire.
Non,
en fait, elles sont.
Non.
Elles peuvent être. En fait, elles sont assez faciles à comprendre. Ouais. Il y a celles que vous avez données.
Ouais.
Elles rejoignent les sirènes. Et d'un autre côté.
Rejoindre la réalité.
Exactement.
Rejoindre la réalité.
Et avec toute l'explication que vous pourriez donner derrière, c'est est-ce que les enfants qui ont passé 4 ans dans Liberté, est-ce que quand ils reviennent, ils ont 4 ans de plus? Ils sont disparus pendant 30 secondes seulement, mais ils ont vécu 4 ans là-bas. Après, tout ça, c'est à libre interprétation de la table, et c'est des pistes seulement.
Et voilà, moi, j'allais justement pour la suite. Si c'était ce que tu viens de dire, ils ont tenu, ils ont vécu 4 ans, ou que sais-je, 8 ans à Liberté. Oui, c'est possible.
Ouais.
Et qu'ils reviennent ensuite à la réalité, que l'univers de Liberté s'incruste dans leur réalité, mais de manière aléatoire et temporaire, un peu à la Silent Hill, mais dans leur quotidien. Donc ils continuent leur vie d'enfant dans le monde véritable de la réalité parfaite, et que tout d'un coup ils voient la pluie arriver, et dès qu'ils comprennent qu'il y a la pluie, c'est qu'ils doivent se cacher, ils doivent survivre, même s'ils sont au milieu d'adultes. Les adultes ne comprendraient pas pourquoi Billy commence à courir et à grimper sur le toit comme un dément, alors que il y a à peine 2 minutes, il était tout calme, tout gentil. Et je pense que ça peut être une piste très intéressante où, quand le joueur meurt, quand l'enfant meurt, qu'il rejoigne aussi la réalité.
Oui, mais ça, je reconnais que c'est hyper intéressant.
Copyright. Si le jeu sort, on a la preuve et la date que j'ai eu l'idée.
Pour le coup, je serais hyper chaude sur la lecture de Paul, tu vois. Mais j'aimerais bien aussi que, du coup, est-ce que j'aimerais que ce soit moins crypté. J'aimerais qu'on ait des occasions de donner du sens en fait au moment où ça apparaît, ces moments-là dans leur vie en fait, des résurgences en fait. La violence qui réapparaît, pourquoi, quand, comment, tu vois, qu'elles apparaissent à des moments bien précis, que ce soit bien cohérent.
Peut-être comme des réminiscences d'un mantra, le fait qu'ils atteignent tant de billes noires, ça fasse apparaître une réminiscence de Liberté, pour que derrière il y ait cette violent, ce retour à la violence dans un quotidien qu'ils ont retrouvé, qu'ils doivent en plus apprécier, mais tellement. Tu passes 4 ans dans la survie la plus totale, et là tu rentres chez toi, t'as un cheeseburger chaud, t'as une douche, t'as
des... surtout du putain de soleil, mec.
Voilà, t'as du soleil, et tu ne pries pas.
Par contre, quand tu dis la douche, ça peut être quelque chose qui pourrait faire...
Ah oui! Non, je sais pas.
Parce que c'est tout ce qui a un rapport avec l'eau.
Non, je pense que là, la douche, l'eau, s'il la met chaude, je pense que là, ça... Ah.
Moi, je suis un shampoing sec, hein, j'arrête les shampoings, moi, je...
Mais je pense que l'enfant pourrait devenir phobique, effectivement, de l'eau froide. L'eau chaude, au contraire, il pourrait l'apprécier, mais l'eau froide, je pense que ça pourrait être extrêmement traumatisant.
Ouais.
Mais effectivement, peut-être, que sais-je, dans 2 ans, j'écrirai la suite de Libreté.
On va prendre un peu de recul pour la fin du podcast, et j'aimerais avoir votre avis sur le fait que ce jeu soit rejouable ou pas.
Justement non, parce que j'ai joué 2 fois. Et deux fois, même si j'ai fait, je me suis amusée à prendre le même personnage, je vais vous faire une petite continuité. Non, parce que justement les situations, le fait qu'on construit un peu l'univers avant, fait que la situation sera toujours différente. Donc
Marion.
Ben aussi, il peut y avoir des thèmes récurrents d'une partie à une autre, c'est pas le souci du tout. C'est aussi la manière dont c'est raconté qui varie à chaque fois. Donc moi, pour moi, je peux jouer pour l'éternité à Libreté, quoi. Tu vois, faut le voir sous la pluie, quoi. Tu vois.
Tout à fait.
Paul, te concernant.
Pour ma part, je suis d'accord avec mes consoeurs. Rien que cette partie et l'idée de Libreté comme on l'a eu vient d'un délire d'avant-partie par rapport à un chat où j'ai raconté une anecdote débile et on a créé une religion par rapport à ce chat. Donc comme quoi d'un sujet le plus banal et le plus débile du monde peut en sortir un truc qui nous met en PLS.
Ouais, une absurdité sombre et cruelle en fait.
Mais oui. C'est peut-être même ça, les meilleures idées, je pense, pour Libreté, c'est l'idée là, qu'on aurait cru le moins possible pour nous mener vers le destin le plus funeste.
Ouais.
Et finalement, cette phase de world building qui a eu lieu au départ est hyper utile, en fait.
Personnellement, je la trouve intéressante. Après, il faut plus ou moins l'utiliser. Là, on n'a pas trop bougé, mais on aurait pu très bien décider de faire une sortie dehors et tout, et là, on aurait bien utilisé cette carte qu'on avait conçue, donc oui, c'est trop important.
Marion.
Alors, en fait, on l'a un peu utilisé, mais hors champ de la caméra, on va dire qu'il s'est passé des choses dans des lieux où on n'allait pas, mais on savait que ça s'était produit, genre l'assassinat dans la forêt, même si on n'est pas allé, ben on savait, ah merde, il s'est passé ça dans la forêt. Ah,
un biscuit.
Ah, un biscuit, tu es mort. Enfin, voilà. donc, pareil, quand il... Enfin, on avait... ça servait de toile de fond. Après, le fait qu'on construise ensemble l'univers, je pense qu'on fait tous appel à notre mémoire géographique et qu'on implante, l'air de rien, des images mentales de notre propre vécu, ça peut être très utile.
Bah, pour ma part, je trouve que la construction de Libreté... C'est un peu comme construire une maison. Si on part sur des bonnes fondations, la partie a de fortes chances de bien se dérouler. Et à l'inverse, si on fait ça à la va-vite, ça part déjà sur de très mauvaises bases.
Alors c'est vrai que parmi toutes les parties que j'ai pu faire de Libreté, et je commence à en avoir un petit paquet, hein, je m'aperçois que cette phase de création de Libreté met en général une bonne heure. Et c'est vrai que j'ai chronométré aujourd'hui pour voir et je me suis retrouvé avec 1 heure de création de Libreté, aussi bien de la création de la carte que de répondre aux questions, de prendre le temps de se poser des questions, parce que je partage ton avis sur le fait de plus tu passes de temps à te poser des questions et à se poser des questions, plus en fait t'as de matériel pour discuter, créer de la fiction derrière, etc. Et je m'aperçois que vu le nombre de parties que j'ai pu faire, ouais, ce temps de 1 heure est récurrent, en tout cas me concernant bien sûr, hein, mais parce que j'aime bien prendre de temps, laisser le temps aux joueurs et aux joueuses de prendre la parole, de prendre la place, mais ce temps est loin d'être inutile même. Vous verriez alors ce jeu, comme j'ai pu le dire, plutôt en mode mini-campagne? Est-ce que le jeu peut se jouer largement en one-shot?
Le démon capitaine, c'est intéressant. En fait, ça dépend les joueurs, ça dépend les personnages. Et les situations, surtout. Comment on peut commencer par une arme one-shot. Et si la situation fait que, en fin de compte, le jeu s'est terminé sur que les personnages sont tous vivants et que ça donne lieu à vouloir avoir une suite, ça, on peut se permettre de faire peut-être une campagne. Après, justement, c'est pas un... Par contre, je pense pas que c'est un jeu pour trois fois ou je ne sais quoi. C'est fort émotionnellement et surtout que les personnages, on sait jamais comment ils vont s'en sortir. Que, en fait, c'est vraiment qu'à la fin du jeu, on peut plus ou moins décider d'en faire une campagne ou pas.
Paul. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Lise. Pour moi, Libreté, c'est un jeu qui peut se continuer à l'infini jusqu'à soit la mort d'un personnage, et là, on peut faire un débrief. Est-ce qu'on a atteint le paroxysme émotionnel du jeu, soit la mort de tout le groupe. Et même à la mort de tout le groupe, on peut se concerter en mode, est-ce qu'on a tout fait ce qu'on voulait? Donc ça peut être une séance, deux séances, trois séances, quatre séances, on s'en fiche. C'est le plus important, je pense, pour moi, pour Libreté, c'est d'atteindre ce qu'on souhaite atteindre. Autant sur le plan émotionnel que sur la trame qu'on a choisi inconsciemment ou consciemment. C'est pas le plus important, c'est ce qu'on a réussi à atteindre. Marion.
Je suis assez d'accord avec Lise et Paul. Pour moi, vraiment, par contre, on doit pas aller sur de la campagne longue. Vraiment, ça doit être très court. One shot, franchement, je trouve que ça passe crème. J'aurais bien fait une ou deux... Peut-être deux séances, tu vois, ça suffit limite pour moi, tu vois. Pareil, je sais pas, est-ce qu'on s'arrête quand le destin des personnages est scellé ou est-ce que quand... quand Libreté tombe, en fait. Parce que j'ai l'impression que ça a l'air d'être ça, en fait. Globalement, c'est la chute de Libreté à chaque fois. Et je pense que sur la durée, ça tient pas parce que émotionnellement, je pense qu'on va perdre de l'intensité. Bon, 3 à la rigueur.
3, si, ça c'est
vrai. Si tu aimes le 3, mais sinon,
voilà. Et alors là, on est forcément entre adultes. Or, on joue des enfants. Est-ce que pour vous, ça a été facile? Est-ce que vraiment vous avez eu l'impression de jouer des enfants? Ou est-ce que finalement vous avez pris des décisions d'adultes? Et si vous avez joué des enfants, est-ce que le système vous a encouragé à le faire? De quelle manière?
Pour ma part, déjà, je dirais que en début de partie, est-ce que c'est toi qui fais le petit speech, fermer les yeux?
C'est recommandé.
D'accord, c'est recommandé. Déjà, ça aide beaucoup. Rentrer à se rappeler, oui, j'ai été un enfant, oui, j'ai adoré les bonbons, etc., etc. Après, pour moi, je n'ai pas eu l'impression de jouer un enfant parce que mon personnage ne pouvait pas se permettre d'être un enfant. Je ne sais pas pour les autres. J'ai essayé de montrer de temps en temps des attitudes un peu enfantines, la colère gratuite, mais mis à part ça, mon personnage ne pouvait pas être un enfant. C'était le plus vieux de Libreté, c'était le fondateur, et derrière tout ça... Il a été le chef, il ne pouvait pas se montrer « Ouais, on va aller cueillir des papillons !» Désolé pour
le problème avec les papillons.
Ouais, non, je vais te calculer après. Non, me tape pas. Non, mon personnage pouvait pas se permettre ça, il était obligé de faire l'adulte. Mais après, ça m'a pas dérangé de jouer à un enfant qui se prenait pour un adulte. C'était autre chose à faire.
Marion ?
Mais Paul est bien trop puissant, et il a dit tout ce que je pensais.
Je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit Paul. Après, moi, de mon personnage, étant donné que c'est une grosse brute, qui avait quand même ce côté un peu, je veux faire aussi mon grand, je veux faire aussi mon cador, tout ce que tu veux, ça fait que mon personnage n'était plus proche d'un adolescent que d'un enfant. Mais je me suis amusée des fois à mettre deux trois petites choses, comme des mots que je comprenais pas. Ou quand il avait la réunion, lever la main, chef, comme si c'était mon professeur un peu. Voilà, les choses comme ça où je me suis un peu amusée, parce que sinon, c'est vrai que je faisais pas un enfant, je faisais vraiment soit un adulte ou soit un jeune, soit un adolescent, quoi. Donc,
Paul,
moi, c'est ma deuxième partie de Libreté avec toi. L'autre partie qu'on avait fait à l'Yggdrasil, petit placement de produit au passage, j'ai retrouvé vachement plus l'ambiance enfant qu'on a eu lors de la création, parce qu'on avait créé les firmiers qui étaient les infirmiers, mais le 1 est devenu le 1. On avait fait vachement ce jeu de mots enfantin tiré de Libreté. Donc tout dépend des joueurs qu'on a à la table, tout dépend en fait de la volonté narrative qu'on a derrière. Là, on l'avait pas retrouvé parce que ce n'était pas réellement le but qu'on a souhaité. On a voulu faire du la religion, les castes, tout ça, la politique enfantile. Et voilà, donc là, c'était vraiment l'armageddon de la politique enfantile. Mais les deux sont très différents et il n'y a pas un supérieur à l'autre. C'est simplement ce qu'on en fait.
Alors, c'est la dernière question du podcast qui est un rituel. À savoir, c'est quoi votre dernier mot?
Pour moi, c'est brou de noix.
Lise, Marion, Lise.
On en refait une?
Pour toi, Marion?
Ce serait plutôt un ensemble de mots, un groupe de mots, qui serait PLS mental.
Donc brou de noix, PLS mental et une autre partie. Ouais, je trouve que ça...
Ça résume bien,
ça résume bien en fait, notre partie.
Et ouais.
Mais en tout cas aussi merci à toi Jérôme pour cette
merci
partie.
À toi, et merci à vous deux.
Et bah merci à Marion et merci à Lise de votre présence et de cette superbe partie. J'ai passé un très bon moment malgré la fatigue et le PLS mental.
Et moi aussi je tenais à vous remercier pour la journée qu'on a passée, pour la bienveillance qu'on a pu avoir avant la partie, pendant la partie, après la partie sur ce débrief. C'est un plaisir d'être avec vous en tout cas. Donc merci, merci ben, aux auditeurs, merci à Vivien.
Ouais, merci Vivien. Ah,
oui, merci oui, Vivien. Oui, oui. Et si ton si mon idée te plaît, tu demandes à Jérôme, il sera me contacter. Non, je rigole.
Allez, merci à tous et puis à bientôt. Alors, je crois que vous l'aurez compris, on est complètement fan de ce jeu. On a vraiment vraiment adoré jouer tous ensemble. Personnellement, effectivement, c'est un jeu que j'adore, qui est facile à mettre en place, que je recommande véritablement à partir du moment où, d'une part, les joueurs sont adultes, et lorsqu'un MJ vous dit que c'est un jeu pour adultes, il faut l'écouter et ne pas essayer de mettre son enfant à la table malgré tout, en pensant que la table de jeu du MJ est une garderie. Et d'autre part, avec des joueurs que je dirais fair play, c'est-à-dire acceptant le fait de maîtriser leurs émotions, tout en acceptant également le fait d'être submergé par elles via le système de billes noires. Alors pour moi, c'est une vraie réussite ce jeu. Toutes les parties que j'ai pu faire ont été vraiment, vraiment intéressantes, toutes plus ou moins intenses. Et franchement, ben, je tiens à te remercier encore une fois Vivien, parce que ce jeu est vraiment, vraiment excellent. Merci également à Jérémy, son éditeur, d'avoir publié ce jeu. Et très franchement, comme dirait Marion, bah Vivien, tu pèses dans le game. Hein. Allez, pour moi c'est fini. J'espère que vous aurez apprécié ce retour d'XP. Le prochain sera consacré au jeu de Mauvais Rêves de Julien Poire. N'hésitez pas à commenter ce podcast. N'hésitez pas également à me faire des suggestions de jeux que vous souhaiteriez voir dans Retour d'XP. Et moi, pendant ce temps, bah, je repars. Je vous dis à très bientôt. À très vite, et surtout, portez-vous bien en JDRI. Ciao !